Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, les aveux du suspect du meurtre de Siem, 18 ans, dans le Gard. Il a évoqué une dispute liée à leur relation amoureuse. La procureure a pris la parole ce matin. On sera sur place dans un instant avec Stéphane Burgat. Travailler 4 jours par semaine. On parlait hier de l'URSSAF de Picardie. On ira aujourd'hui dans une entreprise, une menuiserie de Dijon qui ferme le vendredi pour réduire sa facture d'énergie. La semaine de 4 jours et plus globalement notre rapport au travail. On en parle dans Europe Midi aujourd'hui avec vous au 39-21 et avec l'auteur d'une étude de l'Institut Montaigne sur le travail en France. Les banques distribuent un peu plus de prêts immobiliers grâce à l'actualisation mensuelle du taux d'usure. Les explications de Margot Faudéré. Il était journaliste jusqu'au bout des ongles. Il courait les pièces de théâtre encore ces derniers temps. Philippe Tesson est mort. Il avait 94 ans. Nicolas Caro sera là pour lui rendre hommage et revenir sur sa carrière. Le porte-parole de Système U sera avec nous dans Europe Midi. Il va nous détailler son panier anti-inflation. 150 produits au total, un panier lancé dans tous les super et les hyper U. C'est la Chandeleur. Aujourd'hui, on va voir combien vont nous coûter les crêpes cette année. Et puis la tendance météo, Anissa Haddadi, avec encore beaucoup de nuages.
Oui, c'est vrai qu'hier, on a eu un petit répit avec ces éclaircies qui étaient plus nombreuses sur une grande majorité des régions. Bon, aujourd'hui, les nuages sont bien présents sur les deux tiers de la France. Les éclaircies, ça sera pour le nord-ouest et le pourtour méditerranéen, avec toujours quelques flocons sur les Vosges et le Jura cet après-midi et des températures au-dessus des moyennes de saison.
Anissa Haddadi, merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. On avait encore un espoir de la retrouver en vie, mais la jeune Siem, 18 ans, disparue dans le Gard le 25 janvier dernier, a été retrouvée morte cette nuit. Stéphane Burgat avec nous dans Europe Midi. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en région PACA. La procureure de Nîmes a donné plus d'informations il y a quelques instants sur les circonstances de la mort de Siem.
Oui, effectivement, le corps de Siem qui a été découvert cette nuit vers 1h du matin, en partie dissimulé en bordure d'un chemin de campagne isolé à proximité de ce village de la Grande Combe. Après ses aveux du principal suspect, la thèse de l'enlèvement visant à obtenir des fonds qui avaient été un temps évoqués par le parquet semble donc écartée, selon la procureure de Nîmes, Cécile Jansac. Écoutez.
Le gardé à vue, lien de famille éloigné de la victime, passé aux aveux, en soirée, il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité. Il faisait ses déclarations pour elle, pour sa famille et pour sa conscience.
Voilà la procureure Cécile Jansac qui reste néanmoins très prudente sur les déclarations du principal suspect dans la mesure où elle ne dispose que de cette unique version des faits dans l'attente des recoupements de l'avancée de l'enquête judiciaire et de ses résultats d'autopsie qui sont attendus bien la semaine prochaine pour établir notamment les causes et heures du décès car de nombreuses zones d'ombre demeurent dans ce drame.
Stéphane Burgat, en direct de Nîmes pour Europe 1. Merci Stéphane. La 7e demande de remise en liberté de Cédric Jubilard va être examinée aujourd'hui par la Cour d'appel de Toulouse. Jusqu'ici, la justice n'a jamais donné son accord à une sortie de prison du principal suspect dans la disparition de Delphine Jubilard. Les investigations sont terminées et les avocats du détenu incarcéré depuis juin 2021 assurent que le dossier est vide. Une forte mobilisation mardi dernier. Deux nouvelles journées de manifestation les 7 et 11 février prochains. Et voilà que le gouvernement lui-même commencerait à douter. On parle bien sûr de la réforme des retraites. Elisabeth Borne sera à la télévision ce soir sur France 2 pour défendre le projet de loi débattu en séance à l'Assemblée à partir de lundi. Jacques Serey avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
La Première ministre est attendue au tournant car en plus de donner des gages à la droite, elle va devoir remotiver ses propres troupes.
Oui, car face à la pression de la rue, les langues se délient en Macronie. Ici, un proche du président critique le timing de la réforme. On aurait dû la présenter avant Noël. Borne voulait attendre. C'était une erreur, explique ce soutien de la première heure. Là, c'est un ministre qui s'agace du peu d'entrain de ses collègues du gouvernement à monter au front. On est seul, lâche-t-il hors micro, regrettant par là même un certain manque de cohérence dans le message messages délivrés ces derniers mois, notamment par l'entourage du président, quand il s'agissait de défendre la nécessité d'un report de l'âge légal de départ pour financer la santé, l'école ou encore la transition écologique. Désormais, il n'en est plus question. La réforme doit financer exclusivement nos retraites, n'a de cesse de répéter la Première ministre. Des changements d'arguments qui ont fini par plomber le texte. Un conseiller fait ce constat d'échec. La bataille de l'opinion est perdue. On ne vise plus cet objectif. Elisabeth Borne a donc bien une autre mission ce soir, redonner confiance à ses propres soutiens.
Jacques Seret, merci beaucoup Jacques. Emmanuel Macron, de son côté, s'apprête à recevoir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour une visite d'État. Les deux hommes vont dîner ensemble. Principaux sujets de discussion, les tensions avec l'Iran, les violences entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi le soutien de l'État hébreu à l'Ukraine, souvent jugé trop timide. On vous parlait hier dans Europe Midi de cette expérimentation menée à l'URSSAF d'Amiens. Une semaine de 4 jours pour les agents volontaires pendant un an, mais avec le même nombre d'heures hebdomadaires effectuées, hein, 36 heures au total. Eh bien, en plus d'un certain confort supplémentaire, cette solution peut aussi être utile pour faire des économies. Vous allez comprendre. Face à l'envolée des prix de l'énergie, une menuiserie dijonnaise a décidé de fermer tous les vendredis. Un bonheur pour les salariés et pour la trésorerie. Reportage Europe 1 de Jean-Luc Bougeon.
Ici, à l'atelier Panel, la semaine de 4 jours est en vigueur depuis 3 mois. C'est le patron David Butet qui a pris cette décision en voyant son nouveau contrat d'énergie.
Mon contrat gaz et électricité fait x4 et je me suis dit de quelle manière on peut faire des économies rapides. J'ai réuni les salariés, on a réfléchi ensemble et ils m'ont dit bah écoute, si on enlève une journée, ça va faire des économies de consommation énergétique.
L'atelier est donc fermé le vendredi, les machines, la lumière et le chauffage fonctionnent un jour de moins par semaine.
On a fait presque 25% d'économie. 25% c'est énorme, je pensais pas qu'on allait atteindre autant.
Gagnant aussi les 20 salariés qui viennent un jour de moins au travail. Programmeur y voit plusieurs avantages.
Ça nous permet quand même d'avoir un week-end de 3 jours, donc de nous reposer, c'est ouais. Que du positif. Et ça me permet d'économiser au niveau du gasoil aussi. Je faisais un plein et demi par mois environ, maintenant je suis sur un plein par mois. Ça me fait gagner 40 euros par mois environ.
Tout le monde s'y retrouve donc, y compris la société, qui n'a rien perdu ni en productivité ni en chiffre d'affaires. Dijon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Voilà, la semaine de 4 jours, on va en parler dans Europe Midi. À midi et demi, on sera avec le représentant de l'Institut Montaigne qui a mené une étude sur le sujet et puis sur notre rapport au travail. On en parle beaucoup en ce moment. C'est un chiffre qui nous a marqué l'été dernier. Presque une demande de prêt immobilier sur 2 était refusée par les banques. La raison, un taux d'usure trop bas. Le taux d'usure, c'est le taux maximal au-delà duquel la banque n'a pas le droit de vous prêter de l'argent. Alors depuis, ce taux d'usure a été revu à la hausse. Il est même réévalué désormais tous les mois. Avant, c'était tous les 3 mois. Maintenant, c'est tous les mois. C'est censé débloquer la situation. Margot Faudéré avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour.
Est-ce que cette mesure permet réellement de satisfaire davantage de clients à l'emprunt ?
Alors, ce n'est que le début, Romain, mais oui, on peut dire ça. En particulier pour les plus de 45 ans qui payent des assurances emprunteurs plus chères en raison de leur âge et qui atteignent donc plus souvent le taux maximum. Avec le nouveau calcul du taux d'usure, Stéphanie, 54 ans, peut enfin espérer obtenir son crédit.
J'ai trouvé le bien que je souhaite acheter, un appartement qui est situé à Grenoble. La semaine dernière, quand j'ai présenté mon dossier à ma banquière, elle était très frileuse parce que j'étais proche du niveau maximum du taux d'usure. Avec le nouveau taux d'usure, mon dossier passe et peut être présenté en commission.
Et le nombre de dossiers bloqués devrait continuer à baisser, explique Axel Ronce, le directeur de l'agence Meilleur Taux de Nantes.
Cette mensualisation du taux d'usure sur février, il va se produire la même chose sur le mois de mars, va permettre de pouvoir relancer tous les projets qui avaient été mis sous cloche. On commence à le percevoir auprès finalement de toutes les banques.
Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est plus facile d'acheter. Pour le moment, les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Ils sont beaucoup plus élevés qu'il y a quelques mois. 2,60% en moyenne pour un prêt sur 20 ans, d'après cette même agence Meilleur Taux. Et les prix de l'immobilier ne diminuent pas non plus.
Merci beaucoup Margot Faudéré. Voilà, l'immobilier, ça passionne tout le monde. La pierre, on dit, voilà, une passion française. Merci beaucoup Margot. On a appris dans la matinée
la mort du journaliste et écrivain Philippe Tesson. Mmh. Il avait 94 ans, il a travaillé pour de nombreux journaux, il était réputé notamment pour ses prises de position hautes en couleur, et puis il avait surtout fondé le quotidien de Paris en 1974. Nicolas Carreau avec nous, chroniqueur littéraire d'Europe 1. Bonjour Nicolas.
Bonjour Romain.
Philippe Tesson, c'est plus de 70 ans de carrière. Hein.
Mais oui, on le croyait invincible, immortel, oui. Sans doute à cause de l'étincelle dans ses yeux, vous savez, une étincelle de malice et d'intelligence qui allait avec son sourire espiègle. C'était un jeune homme, Philippe Tesson, même à 94 ans, hyperactif, il était multicarte, il est venu souvent à Europe 1, d'ailleurs il abordait, je me rappelle, ses passages médiatiques comme un acteur prépare son rôle, il aimait le spectacle, le théâtre était sa vraie passion, il a d'ailleurs acheté le théâtre de poche de Montparnasse en 2010, il courait toujours tranquillement quelque part, on avait le tournis quand il dressait la liste de ses activités, et c'est pareil si l'on retrace sa vie, il est né dans l'Aisne, à 30 ans il est rédacteur en chef du journal de la Résistance Combat, il est condamné 17 fois pour offense au chef de l'État, le général de Gaulle. En 74, il fonde le quotidien de Paris. Parallèlement, il lance le quotidien du médecin avec sa femme Marie-Claude. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il avait toujours un fer au feu.
Mais je m'en fous, je ne me pose jamais la question, je ne me pose plus, pas trop souvent la question de savoir pourquoi. Se poser la question de savoir pourquoi on fait les choses, c'est s'empêcher de les faire parce que ça fait perdre du temps. C'est un peu ça ma philosophie.
Alors bizarrement, il n'a jamais écrit de livre. Si, un tout petit sur De Gaulle dans les années 60, il a laissé ça à son fils, les livres, Sylvain. D'ailleurs, il confiait que quand on les voyait tous les deux, avant on disait « c'est le fils de Philippe » et maintenant on dit « c'est le père de Sylvain ». Il avait le sens de la formule et le sens de la vie et toujours avec son sourire.
Merci beaucoup Nicolas Carreau. C'est vrai qu'il ne s'était jamais arrêté en réalité.
Jamais.
On parle beaucoup de la retraite, il a 94 ans, il allait voir des pièces jusqu'à ces derniers mois, quoi, ces dernières années. Oui.
C'est un très très gentil, un homme très très gentil, très bon.
Ce qui ne gâche rien.
Pour l'avoir connu un petit peu.
Merci beaucoup Nicolas Carreau. Il est midi 12.
Europe Midi. Romain Desarbres.
La manucure, un soin de beauté que vous imaginez peut-être sans risque. Pourtant, la revue médicale Nature alerte sur les dangers que cette pratique peut faire peser sur la santé. Les lampes à ultraviolets qui sont utilisées, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les ongleries, pour donc maintenir la couleur hein, sur les ongles, eh bien, ces lampes à ultraviolets pourraient multiplier les risques de développer un cancer de la peau. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Expliquez-nous.
Eh bien, les chercheurs ont exposé des cellules humaines et animales aux lampes UV. En une seule exposition de 20 minutes, 30% des cellules ont été détruites. Les scientifiques américains ont donc déduit qu'à long terme, cela provoquerait une mutation des gènes. Or, ce sont les modifications de l'ADN qui peuvent déclencher un cancer, explique le professeur Jean-Yves Blais, président de la Fondation Unicancer.
Pour les rayons UV, il y a des mutations particulières qui sont retrouvées et que l'on retrouve dans cette étude. Les altérations de l'ADN, elles vont être réparées par nos systèmes cellulaires naturels qui réparent l'ADN, mais parfois ils sont débordés, parfois ils réparent mal. Et donc le risque, il existe dès une première exposition, a priori.
En fait, mettre sa main sous une lampe UV plusieurs fois par mois pour certaines femmes équivaut à une exposition répétée au soleil et ses rayons, que l'on sait dangereux. Certaines esthéticiennes proposent donc de mettre de la crème solaire pendant la manucure, une solution insuffisante pour le médecin qui préconise de limiter au maximum le contact avec les UV.
Merci beaucoup Yasmina. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Je suis sûr que vous n'avez pas attendu Europe Midi pour le savoir. Mais je vous le rappelle quand même, aujourd'hui c'est la Chandeleur. On fait des crêpes. Avis aux retardataires, ne traînez pas pour faire vos courses. Les rayons risquent d'être vides, c'est vrai. Hein. La consommation de confiture et de cidre, par exemple, augmente de 50% pendant la période de la Chandeleur. Mais une fois en magasin, l'inflation va peut-être vous réserver une mauvaise surprise. Bonjour Noah Moussa.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous avez fait vos calculs et faire des crêpes va coûter plus cher cette année. Hein.
Et oui, le sucre, la farine, le beurre, l'huile, les œufs et le lait, tous les ingrédients qu'on utilise pour faire notre pâte à crêpes maison ont augmenté, selon notre partenaire, le panéliste IRI. Si vous faites 25 crêpes, par exemple, vous aurez besoin de 500 grammes de farine. En marque distributeur, ça vous coûtait 30 centimes lors de votre dernière chandeleur. Et bien cette année, la même quantité de farine vous reviendra à 44 centimes. Et en marque nationale, ça passe même de 80 à 96 centimes. Idem pour les 5 œufs de marque nationale nécessaires à votre recette. Ils vous coûtaient 1,60 €. L'année dernière, c'est 1,90 € aujourd'hui, 22% d'augmentation. Votre plaquette de 100 grammes de beurre n'échappe pas non plus à l'inflation. En marque nationale, elle passe la barre symbolique des 1 € contre 83 centimes l'an dernier. Autre ingrédient essentiel, le sucre. En marque distributeur, les 100 grammes coûtent 18% plus cher, Romain. En bref, notre fête des crêpes qui nous coûtait 3,20 euros l'année dernière nous coûtera 3,85 euros cette année, 20% plus cher, sans compter les garnitures et les boissons. Là aussi, les prix s'envolent. Le pot de confiture, par exemple, augmente de 13%.
La crêpe, produit de luxe. Non, on n'en est pas là, mais enfin, ce que vous nous dites...
Mais oui, presque.
Mais presque, mais presque. Merci beaucoup, Noah Moussa. Et on ne peut pas parler de crêpes en France, c'est impossible, sans penser à la crêpe au sucre des bronzés fonds du ski.
Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, 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 je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là, on croit rêver.
C'est vrai, on s'est dit qu'il se croit celui à tête de con. Voilà, qu'on ne te revoit plus ici, hein.
Qu'est-ce qui se passe?
Oh, bah c'est encore une crêpe au sucre.
Encore une histoire de crêpe au sucre. Mais oui, encore une histoire de crêpe. On connaît tous, tout le monde connaît la recette de la crêpe au sucre et de la crêpe avec la crêpe Gigi, hein, le pétale de rose tiède. Voilà. Claire Lemaître, vous connaissez la...
C'est culte.
C'est culte, c'est culte, effectivement. Voilà, petit cadeau dans Europe Midi. La bourse, Claire Lemaître avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour Romain.
Qu'est-ce que ça donne à Paris?
Eh bien, ça monte après la fête, plus 0,5% pour le CAC 40, 7117 points. La réserve fédérale américaine qui calme le jeu, elle a remonté les taux d'un quart de point hier contre un demi-point lors des précédents rendez-vous. Le discours reste ferme. On continue les hausses de taux pour faire baisser l'inflation. Alors on attend maintenant un autre gros morceau, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui se prononcera, elle, en début d'après-midi. La valeur du jour à Paris, c'est Publicis, c'est le numéro 3 mondial de la publicité. Plus 6% pour l'action après ses résultats financiers. Et puis ça se passe bien en Europe, c'est du vert. Francfort bondit de 1,5%, plus 0,6% pour Londres, plus 1,2% pour Amsterdam et donc plus 0,5% pour le CAC 40 à Paris.
Claire Lemaître de boursier.com. Merci Claire. La météo à présent avec vous Anissa Haddadi. Cette semaine, les jours se suivent et se ressemblent.
Et c'est vrai que là, depuis le début de la semaine, on a quasiment la même météo tous les jours. Un temps plutôt calme, sec, quelques averses sur le Grand Est cet après-midi entre la Lorraine, la Bourgogne et la Franche-Comté. Toujours de la neige sur les Vosges et le Jura, des 700 mètres d'altitude. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a un temps plutôt calme. Des brouillards qui ont du mal à se dissiper dans le sud-ouest cet après-midi. Une couverture nuageuse très importante sur l'ensemble des régions, sauf sur les côtes de la Manche et au bord de la Méditerranée, hein, dans les Alpes, jusqu'aux Pyrénées et encore. Soleil radieux avec toujours du mistral et de la tramontane. Les températures sont douces pour la saison. On a 6 degrés au Puy-en-Velay, 7 à Aurillac, 9 à Reims et Strasbourg, 11 degrés cet après-midi à Paris, Cherbourg, 14 à Marseille et 15 degrés pour Montpellier et Nice.
Merci Anissa, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du panier anti-inflation mis en place par Système U, dans les super et les hyper U. Lidl a également mis en place un panier anti-inflation. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont vraiment de bonnes affaires? On sera avec le porte-parole de Système U et avec vous, bien sûr, au 39-21. A tout de suite.